23h.
Et ça, ce n'est pas de la fiction.
France Inter et Jazzy Marciac présentent From Billie Holiday to Edith Piaf. Le croisement en musique et en images de deux répertoires d'exception servis par deux musiciens prodigieux. L'accordéoniste Richard Galliano et le trompettiste Wynton Marsalis. Retrouvez The Wynton Marsalis Quintet et Richard Galliano le 8 novembre à 22h05 dans Ascenseur pour le Jazz de Julien Delifiori.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Que le monde est beau, que la justice indépendante de notre pays est bien faite et que Chirac est serein. Devant elle, il va de son plein gré s'expliquer. Et c'est normal qu'il y aille, car devant notre merveilleuse et juste justice, chaque citoyen est égal, sans préférence ni préjugé. Gloire à toi, Saint-Jacques, du compost des fonds de casserole de la République. Tu vas comparaître vite et libre, et devant notre justice nationale, toi, l'homme politique le plus aimé des Français, sera sanctifié, innocent, et en ressortira plus blanc que blanc. Ce procès sera le couronnement de ta carrière intègre. Ah, pauvre Lévi-Strauss, il n'aura pas eu le temps de voir ce haut fait ethnologique. Et déjà, les jeunes ne connaissent de lui qu'une marque de jeans bleu. Ah, triste, si triste, trop politique.
Vendredi 6 novembre 2009, à 19h, Saint-Brieuc, dans la bonne ville de Louis Guillou. Saint-Brieuc, donc, où le sang est noir et l'eau rouge. Elle court, la rumeur. La maison close va-t-elle fermer? En clair. Le second repère AMG sera consacré à la maison d'arrêt. Si vous avez des échos du dedans ou du dehors, nous vous invitons à venir en témoigner, en toute liberté, au café L'eau Rouge, place de la Résistance, la bien nommée, au port du Légué, le vendredi 6 novembre à partir de 19h. Là-bas, nous y serons nombreux, comme chaque premier vendredi de chaque mois. À bientôt, nous vous attendons.
Salut Daniel, juste pour te dire ma tristesse en apprenant la mort de Claude Lévi-Strauss, un type que tu devais sans doute bien apprécier aussi, un grand monsieur bien évidemment, et qui sera mort alors que le gouvernement de son pays se mettait à ressortir des idées nationalistes sur le ton du qu'est-ce que l'identité française, comment renforcer l'attachement à sa nation et toutes ces conneries, quoi. Que Lévi-Strauss meure aujourd'hui me semble un film terriblement fort, quoi.
Bonjour les AMG, le Café Repère de Grenoble, premier jeudi du mois de novembre. Nous avons une petite réunion à 18h30 au Café Resto La Bonheur.
Une jolie chanson d'un texte de Walter Mehring sur une musique de Werner Richard Heymann, celui qui a aussi fait « Avoir un bon copain ». Voilà, ma ville est si petite que même un rayon de lune n'y a pas sa place. Ma ville est si petite que quand on se donne un baiser, la police l'entend. Es wohnen in meinem Städtchen 10 Seelen und ein Hahn, 2 Ratsherren und 5 Mädchen, drum steht's auf keinem Plan. Da selbst darin kein Plätzchen hat der helle Mondenschein, so klein, so klein, so klein ist meine Stadt. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. Es fließt vom Tor ein Flüsschen, der Fluss fließt stets vorbei, und gibt man sich ein Küsschen, hört's gleich die Polizei. Und wenn man einen Fehltritt tat, da steht man gleich allein. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. De la revue Yaya Berlin, donnée en 89 à Schiltigheim et à Strasbourg par Jean-Marie Hummel et Liselotte Ham.
Mais jamais nous n'arriverons à faire entrer une si grande femme dans une si petite émission. Je veux parler évidemment de Rosa Luxembourg. On ne peut pas ne pas évoquer la figure de Rosa Luxembourg si l'on parle de Berlin, si l'on parle de la chute du mur de Berlin. tente, évidemment, cette histoire de la chute du mur a une longue, longue histoire qu'il est absolument indispensable d'évoquer. La chute du mur de Berlin a marqué la fin de la guerre froide, mais pas la fin de l'histoire. Et cette chute du mur a été, cette fin de la guerre froide a été prolongée par une guerre froide des mémoires. Voilà ce qui caractérise les 20 dernières années. Alors bien sûr, on le dit, on le redira encore, ce sont les plus forts qui écrivent l'histoire. Ils vont le démontrer formidablement, les plus formidables, ce lundi prochain. N'empêche que l'avenir n'est jamais définitivement écrit. Et que concernant l'effacement, parce qu'il s'agit bien de ça, au cours de ces 20 ans, tout a été fait pour effacer la mémoire de l'Est, pour maquiller, pour effacer, pour euphémiser, pour humilier encore un peu davantage. Et il y a des grandes parties de Berlin qu'il est impossible de faire disparaître. Voilà pourquoi nous irons au démarrage de la Staline Allée, la Karl Marx Allée maintenant, une avenue de 90 mètres de large dans un esprit absolument rigoureusement stalinien. Mais là, le 17 juin 1953, il y a eu des émeutes, il y a eu un soulèvement des ouvriers et des maçons qui construisaient cette ville. C'est une page connue, bien sûr, des Allemands et notamment des Berlinois, mais beaucoup moins connue de ce côté-ci de l'Europe. Et puis, on évoquera aussi, je l'ai dit, Rosa Luxembourg et un autre 9 novembre, le 9 novembre 1918, où à la fois à chaque bout de la ville, à chaque bout de Berlin, la République fut déclarée. Une République socialiste, démocrate, celle du SDP, et à l'autre bout de la ville, déclarée par Karl Liebknecht lui-même, une autre République, c'était la Révolution allemande, comme on l'appelle, révolution avortée, qu'on évoquera autour et avec la figure de Rosa Luxembourg, qui devait mourir quelques mois plus tard, assassinée le 15 janvier 1919, il y a donc 90 ans, en même temps que Karl Liebknecht. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut MRS, salut les AMG, c'est pour signaler la tenue d'un café repère à Nancy. Donc ce sera aujourd'hui à 20h au bar Le Royal avec pour thème Copenhague, l'ultimatum climatique.
Aujourd'hui, 23e jour de grève de la fin de Sébastien Postier-Martigues. La situation s'enlise, la direction essaie de pourrir la situation en divisant les grévistes et n'écoute pas la parole de ceux-ci. Je vous en prie, allez les voir à la poste de Ferrières à Martigues pour écouter leur douleur. Ils ont besoin de votre oreille et de votre soutien. Et diffusez cette information à vos connaissances. Merci. Isabelle de Martigues.
Salut Daniel, salut toute l'équipe de là-bas. C'est Gabriel de Barcelone. Bon, je vous appelle pour inviter tous les exilés de Barcelone et de la région, tous ceux qui écoutent l'émission depuis ici, depuis Barcelone, à se joindre à nous ce vendredi à 21h à la Teteria Malea pour le café repère numéro 1. Donc nous débattrons du thème suivant, réinventons les réseaux de lutte et de solidarité à Barcelone. Donc voilà, on mettra en commun nos calepins, nos annuaires, nos agendas pour une action citoyenne à Barcelone. Et puis voilà, comme ça, ce sera aussi l'occasion de rencontrer les auditeurs de là-bas, si j'y suis, qui habitent et évoluent dans la région. Donc vendredi prochain, 6 novembre, à 21h, à la Teteria Malea, dans le quartier Plaça de Sants, à Barcelone. Salut!
Ce film n'est pas une œuvre imaginaire. Ce film est une réalité. Ce film n'a pas été composé dans un studio. Ces images en ont été empruntées aux archives cinématographiques du monde entier. Certaines de ces images sont techniquement peu réussies. Ces qu'elles datent d'un temps où le cinéma faisait ses premiers pas. Elles n'en sont pas moins saisissantes. Le poison communiste filtre à travers le front russo-allemand. La décomposition de la troupe qui a fait face 4 années durant aux armées du monde est rapide. La marine se mutine. On organise des soviets d'ouvriers et des soviets de soldats. Reissner, Rosa Luxembourg, Jebnek, Rosenfeld s'efforcent d'instaurer à Berlin la dictature du prolétariat. Les spartakistes lèvent le drapeau de l'insurrection, mais les patriotes et l'armée régulière, après une lutte sanglante, parviennent à maîtriser l'émeute. Cependant, le 7 avril 1919, la République des Soviets est proclamée à Munich. Mais les forces nationales, sous le commandement du général Ritter von Epp, parviennent à libérer la ville. Le bolchevisme recule.
Voilà le monument. Il est bien sobre, hein? Le monument à Rosa Luxembourg. Juste son nom... gravé comme ça dans des barres de métal qui vont dans l'eau et qui écrivent Rosa Luxembourg. Mais il y a une plaque quand même hein, pour dire Abenden 15
de Nazi. Le soir du 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht ont été maltraités et assassinés par les soldats et les officiers de la division de la cavalerie. Rosa Luxembourg a été blessée à mort et elle a été jetée dans le Landwehrkanal à cette place. Karl Liebknecht a été fusillé un peu plus tard au Neuensee, à quelques centaines de mètres d'ici.
Cette plaque a été posée en 1987. On voit qu'on fait, pas une très très grande mise en scène de cette histoire quand même. C'est un cas de minimum historique. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la place où je suis avec Guy Ventil et Marina Touyez. Rosa, 1953. Arriving from...
Et ici, c'est l'entrée du zoo et ici, c'est le pont du Tiergarten, du parc.
En tout cas, c'est un bel endroit. Hein. C'est un beau dimanche d'automne. Très froid, mais très beau. À Berlin, et on est sur un petit pont. Passerelle en bois. Au-dessus, comment s'appelle le fleuve?
Landwehrkanal.
Ah, c'est un canal.
C'est un canal, Landwehrkanal.
Et là, tout le monde se promène tranquillement et tout ça. Et c'est là que le corps de Rosa Luxembourg a été jeté.
Elle était déjà morte à ce moment-là, exécutée d'une balle dans la tête.
Tiens, on va demander aux gens, là. Et, juste une petite question. Bonjour, bonjour. Et est-ce que vous savez que c'est ici que le corps de Rosa Luxembourg a été jeté dans le canal? Ah, mais tout le monde le sait, alors?
Non, das wissen nie alle Leute was. Die meisten Leute sind dumm.
La plupart des gens sont stupides.
Que représente Rosa Luxembourg aujourd'hui pour vous?
Heute gar nichts mehr. Ich bin in der DDR in die Schule gegangen. Da war sie eine Heldin.
Pour moi, elle ne représente plus rien maintenant. J'ai été à l'école en RDA et à l'époque, elle était une héroïne.
Et aujourd'hui, pour vous, c'est plus une héroïne?
Nein. Ich glaube nicht.
Eine historische Figur.
Ja, eine historische Figur, ja. Wenn man in der DDR in der Schule von dem was gelernt hat, dann hatte man eine Abneigung dagegen. Und ich habe dagegen nie was getan.
Quand on apprenait quelque chose à l'école en RDA, on développait certaines distances par rapport à ce qu'on apprenait. Certaines
répulsions.
Ouais, c'est un rejet.
Je ne sais pas, mais finalement, c'était à cause de cette propagande de l'Allemagne de l'Est dont j'ai parlé auparavant.
Das ist der Zoo.
On a reçu deux livres
au sujet de Rosa Luxembourg. Deux livres, l'un intitulé « Introduction à l'économie politique » de Rosa Luxembourg, un livre grave, important, fondamental, extrêmement sérieux, qui diffuse les textes de Rosa Luxembourg de 1907 à 1913 sur ses cours d'économie politique. Et puis on a reçu un autre livre qui s'appelle Rosa à la vie, texte choisi par Anouk Grimbert, Lettre de Rosa Luxembourg. Entre ces deux livres-là, il y a toute l'œuvre et tout le, on va dire le génie carrément, d'une femme qui va depuis la théorie économique la plus pointue, la plus avancée, la plus porteuse d'espérance, on peut dire. Et puis d'autre part, une femme sensible qui écrit des lettres d'amour, qui écrit des lettres poétiques, des lettres très... Elle n'a pas cessé d'écrire de toute sa vie, qui a duré 48 années. On va retracer un peu, quelque peu, ce parcours. Pourquoi ? Parce que elle est toujours là, Rosa Luxembourg. Elle a été la figure emblématique de cette, avec Karl Liebknecht, de cette RDA, de cette DDR. Et chaque année, le 15 janvier, à Berlin, un endroit qu'on appelle le cimetière des socialistes, nombreux sont ceux qui, une rose rouge à la main, viennent se recueillir sur sa tombe, qui par ailleurs, dit-on, est vide. Qui vient là ? Est-ce que ce sont des gens courbés, assujettis au stalinisme le plus granitique ? Ou bien est-ce qu'ils viennent voir là, commémorer, rendre hommage à un rêve qui ne s'est jamais réalisé ? Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht furent les figures récupérées par ce stalinisme-là. Pour d'autres, nombreux, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre pensée, et c'est une autre pensée porteuse, toujours aujourd'hui, de signification. Mais je reviens à la Rosa sensible, celle de d'Anouk Grimbert, avec des textes traduits par Laure Bernardi, où l'on peut lire ceci: n'oubliez pas de lever un instant la tête et de jeter un œil à ces immenses nuages argentés, au paisible océan bleu dans lequel il nage. Faites attention à cet air plein de la respiration passionnée des dernières fleurs de tilleul, à l'éclat et à la splendeur de cette journée, parce que ce jour ne reviendra jamais, jamais. Il vous est donné comme une rose ouverte, posée à vos pieds, qui attend que vous le preniez et la pressiez contre vos lèvres. C'est jusqu'à 16h, là-bas si j'y suis, Rosa, 1953.
Sind wir geboren? Auf zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Dem Karl Liebknecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche. Wie es so vielen Freiheitskämpfern
sind in Friedenau.
Nous sommes à Friedenau,
sogenannten Literatenviertel von Berlin.
Le quartier des écrivains ici à Berlin.
Hier hat ein Teil der Geschichte der SPD stattgefunden. Rosa Luxemburg hat hier gewohnt.
Une partie de l'histoire de la SPD a eu lieu ici. Rosa Luxemburg a vécu ici.
Man kann jetzt so überall hin zeigen. Da hinten, ein paar Häuser weiter, hat Karl Liebknecht gewohnt.
Quelques maisons plus loin, il y a Karl Liebknecht qui a habité ici.
Karl Kautsky.
Karl Kautsky.
Und die erste Wohnung in Friedenau von Rosa Luxemburg. Et ganz hier in der Nähe von der S-Bahn.
Ici, le premier appartement où a vécu Rosa Luxemburg, tout près du S-Bahn, du RER.
Sie wollte immer in der Nähe der S-Bahn wohnen, um in die Stadt reinzufahren.
Elle voulait habiter près du S-Bahn pour pouvoir aller vite dans le centre-ville. En 1898.
Là, ce qui nous intéresse, c'est la mémoire de Rosa Luxemburg. Au moins pour une raison, c'est que c'est le 90e anniversaire de sa mort cette année. Mmh. Et bon, là, c'est le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, mais c'est aussi le 90e anniversaire de l'assassinat de Rosa Luxemburg, qui a été célébré ici le 15 janvier, comme chaque année. Mais on me dit qu'il y avait presque 10 000 personnes au cimetière à sa mémoire.
Sind sehr viel mehr als 10.000 Menschen, die dort jedes Jahr hingehen. Es gibt immer eine Demonstration, das sind vielleicht 10.000 Leute, aber es gehen 100.000 hin und legen eine Blume hin.
C'est peut-être 10 000 personnes le jour même, mais il y a énormément d'autres personnes qui viennent pour lui rendre hommage.
Das ist natürlich eine Ost-Berliner Tradition.
C'est une tradition de Berlin-Est.
Aber Rosa Luxemburg ist trotzdem eine gesamtdeutsche Person.
Mais Rosa Luxemburg reste malgré tout une personne qui représente l'Allemagne entière.
Qui représente l'Allemagne entière et les contradictions. Rosa Luxemburg est aujourd'hui, toujours, ou peut-être même à nouveau, un enjeu de mémoire. Ici, on est à Berlin, à la tête de cette ville, il y a deux partis qui sont rouge et rouge. C'est-à-dire qu'il y a le SPD et Die Linke. Et entre le SPD et Die Linke, il y a une longue histoire d'opposition, de frères ennemis, de lutte.
Erste Ergebnis dieser Problematik ist, dass man manchmal denkt, jeder hat seine eigene Rosa Luxemburg.
Le problème, c'est que on pense souvent que chacun a sa propre Rosa Luxemburg.
Ja, man muss sich Deutschland in dieser Zeit vorstellen als das kommende Land der Arbeiterbewegung.
Faut bien se rendre compte que l'Allemagne était à l'époque le pays où le mouvement ouvrier était en marche.
Die SPD war die größte revolutionäre Partei Europas.
Le SPD était le plus grand parti révolutionnaire de l'Europe.
De quelle époque on parle là?
Über die, ich würde sagen, die Zeit nach dem SPD-Verbot, nach den Sozialistengesetzen, also in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts.
Je parle de l'époque où le SPD a été interdit, c'est-à-dire 1890.
Und am Ende dieses Jahrzehnts kommt Rosa Luxemburg nach Deutschland, nach Berlin.
Et c'est à la fin de cette décennie que Rosa Luxemburg arrive en Allemagne et à Berlin.
Ich würde sagen, sie wollte an dieser historischen Stunde teilnehmen.
Je pense qu'elle voulait prendre part à cet événement historique.
Und Einfluss nehmen.
Et qu'elle voulait prendre de l'influence aussi, qu'elle voulait agir.
Elle voulait agir. Rosa Luxemburg, on est avec Jörg Soukoup, qui est un chercheur et journaliste qui, vous l'entendez, se passionne pour ce spectre. Ce spectre qui hante toujours non seulement Berlin, non seulement l'Allemagne, mais l'Europe tout entière. En Allemagne, chaque parti politique a une couleur. Une couleur, c'est-à-dire le CDU, c'est noir, le FDP, la droite libérale, c'est jaune, et il y a les verts, les Grünen, et puis il y a aussi les rouges. Et on vient de parler du SPD, c'est-à-dire le parti social-démocrate, qui était un parti révolutionnaire à la fin du 19e siècle, et qui ne l'est plus guère aujourd'hui, pas plus que le parti socialiste français peut l'être. Mais en tous les cas, la couleur du SPD, c'est rouge. Et depuis 2007, où est apparu ce nouveau parti, Die Linke, un parti de gauche, eh bien, la couleur de Die Linke, c'est rouge aussi. Et actuellement, à Berlin, eh bien, la mairie, la municipalité est rouge et rouge. C'est-à-dire que c'est Die Linke et le SPD qui dirigent la ville de Berlin, la ville pauvre mais sexy, comme le dit la rumeur.
et la municipalité. Rouge et rouge, Die Linke et SPD. Et ces deux couleurs rappellent l'histoire du 19e siècle, de la fin aussi du 20e siècle et de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire le moment où le drapeau rouge s'est déchiré. Et il s'est déchiré au moment de la guerre, au moment de 1914, où certains éléments du SPD, militants du SPD, dont cette sacrée Rosa Luxembourg faisait partie, ont dit non à la guerre. On dit non à la guerre, ce qui lui a coûté la prison. En France, Jaurès, ça lui a coûté la vie, mais c'était effectivement vécu comme une trahison, car à Berlin, on disait « Nar Paris », et à Paris, on disait « À Berlin ». Le nationalisme était à son comble, on voulait vraiment en découdre, mais Rosa Luxembourg et ses amis avaient compris qu'il s'agissait d'une guerre impérialiste qu'il ne fallait pas livrer, mais c'était trop tard, la guerre était engagée, mais ça lui a valu cette exclusion du SDP. Et c'est ça qui entraînera la création de la Ligue spartakiste, c'est-à-dire le mouvement spartakiste, qui c'est Spartacus ou Spartakis, comme on voudra, qui se développera après la guerre et qui marquera cet épisode de la révolution avortée, celle qui a marqué les lendemains de la guerre, de la première guerre mondiale. Rosa Luxembourg, c'est difficile, je le disais, de faire rentrer un tel personnage dans une heure comme celle-là. Elle était née en Pologne, dans une famille juive éclairée, et elle s'initie très vite, elle fait des études brillantes, elle s'initie très vite, elle s'engage dans la politique, elle fait des études en Suisse, elle décide de venir en Allemagne faire son travail de militant et de journaliste également, et l'écriture de ses livres que j'évoquais tout à l'heure. Elle va avoir une connaissance parfaite du marxisme et des écrits de Marx, mais qu'elle va dépasser. On pourrait presque dire qu'elle est post-marxiste en ceci qu'elle prend note des évolutions de l'histoire, tout simplement, pour proposer une autre vision, et notamment en ce qui concerne le colonialisme, l'analyse qu'elle fait du capitalisme la pousse à considérer comme inévitable le colonialisme et l'impérialisme qui est pour elle entièrement lié au capitalisme. Ce qui peut nous éclairer aujourd'hui si on regarde l'évolution de la mondialisation. Mais il y a beaucoup d'autres thèmes abordés par Rosa Luxembourg qui peuvent toujours nous éclairer aujourd'hui, même si une partie de cette histoire est bien loin de nous et n'a plus beaucoup de signification pour aujourd'hui, sauf ce drapeau qui, en 1918, se déchire.
Und jetzt möchte ich Ihnen Frau Dr. Rosa Luxemburg vorstellen. Die direkt aus Warschau zu uns gekommen ist, wo sie unter Einsatz ihres Lebens für die russische Revolution gewirkt hat. Genossinnen und Genossen, mein Vorredner hat mich am Schluss seiner Rede eine Märtyrerin und Dulderin der russischen Revolution genannt. Ich muss meine Ausführungen mit einem Protest hiergegen beginnen. Ich glaube, Sie machen sich ein völlig falsches Bild von einer Revolution. Die bürgerliche Presse in Russland malte dem Ausland ein riesiges Blutmeer, unerhörte Leiden des Volkes. Aber das ist die Auffassung des Bürgertums, nicht der proletarischen Klasse. Hat jemand danach gefragt, dass tausende Proletarier auf dem Schlachtfeld der Arbeit gefallen sind? Jeder weiß, dass er wenigstens für seine Kinder und für seine Enkel an der Befreiung des Volkes mitarbeitet.
La voix de Rosa Luxembourg, revue au cinéma. En
1918, de Kiel à Munich, la révolution éclate dans toute l'Allemagne. Fleurissent des conseils ouvriers, des conseils de soldats qui proclament l'avènement du socialisme. En janvier 1919, la répression des corps francs va noyer la commune de Berlin dans le sang. Dans cet espace très court qui va de novembre 1918 à janvier 1919, se joue le destin tragique de l'Allemagne. Novembre 1918 marque l'abdication de Guillaume II et aussitôt le SPD va proclamer la République en même temps que Liebknecht et son parti Spartacus va proclamer le même jour à l'autre bout de la ville, à un autre balcon, la République socialiste. Il faut dire qu'en 1916, Karl Liebknecht, qui est sous les drapeaux, qui est en uniforme, au milieu d'Alexanderplatz, hurle à bas la guerre. Ce qui lui vaut immédiatement d'être arrêté, on est en pleine guerre, immédiatement d'être arrêté, d'être jeté en prison. Il y a aussi évidemment l'influence en 1917 de la révolution bolchevique qui va travailler. Ces luttes de l'intérieur. Il y a la déception en 1918 de l'Allemagne tout entière, la défaite et ce pays totalement exsangue et écrasé pas seulement par le traité de Versailles mais complètement par terre qui va là aussi faire espérer une issue plus radicale que celle proposée par le SDP. Mais ça ne sera pas, par le SPD, mais ça ne sera pas le cas. Cette révolution, on l'a dit, avortera. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui ceux qui considèrent toujours que cette histoire a du sens, que l'histoire n'est pas terminée, comme on l'avait dit il y a 20 ans, au moment de la chute du mur, on avait dit c'est la fin de l'histoire. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas, l'histoire n'est pas écrite définitivement, et en voilà la preuve.
Et là, ça va donner lieu à des combats très graves.
Mit denen hat Luxemburg nichts zu tun.
En fait, Rosa Luxemburg, avec ses combats, elle n'a pas grand-chose à voir.
Aber sie hat ihre Zeitung.
Mais elle a son propre journal.
Und selbstverständlich, sie weiß, dass diese Leute keine Chance haben, aber selbstverständlich unterstützt sie sie.
Et elle sait quelque part que elle sait depuis le début que ces personnes-là n'ont aucune chance, mais elle a son propre journal et elle veut les soutenir.
Sie ist in der gleichen Situation wie Marx 1871.
Elle est exactement dans la même situation que Marx en 1871.
Als Paris brannte.
Alors que Paris était en feu.
Marx unterstützte natürlich die Commune. Obwohl er wusste, dass sie keine Chance hat.
Bien sûr que Marx a soutenu la Commune, même s'il savait qu'elle n'avait aucune Chance.
Der Unterschied zwischen Rosa Luxemburg und Marx war, Marx saß im sicheren London.
Mais la différence entre Rosa Luxemburg et Marx, c'est que Marx, il était à Londres, bien à l'abri.
Und sie saß hier im hystérischen Berlin.
Et Rosa Luxemburg, à l'inverse, était dans ce Berlin hystérique.
Und sie werden beide verraten. Sie sitzen im bürgerlichen Wilmersdorf in der Mannheimer Straße.
Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, qui sont à ce moment-là dans ce quartier bourgeois de Wilmersdorf, vont être trahis.
Sie werden ins Hotel Eden in Charlottenburg gebracht.
Ils sont arrêtés, puis ils sont emmenés à l'hôtel Adlon, dans le quartier de Charlottenburg, par les militaires.
Volksbeauftragten für das Kriegswesen, Gustav Noske, ab.
Et à ce moment-là, donc, il y a eu un accord entre le chef de ces militaires et Gustav Noske, qui est ce qu'on appelle le commissaire au peuple de l'État pour les militaires, Gustav Noske. Et il y a un accord.
Und beide beschließen zusammen, beide zu ermorden.
Also, ils décident d'assassiner ces deux révolutionnaires.
Zuerst wird Liebknecht rausgeführt, zusammengeschlagen, erschossen und in den Landwehrkanal geworfen. Er wird dann am 22. oder 23. Januar gefunden.
D'abord, c'est Karl Liebknecht qui est battu, puis abattu, fusillé, et puis jeté dans le Landwehrkanal. Il va être retrouvé le 22 janvier 1919.
Danach wird Rosa Luxemburg rausgeführt. Man hat ihr schon Schuhe entrissen. Ihr wird der Schädel eingeschlagen. Da sie noch lebt, wird sie dann im Auto erschossen.
Après, c'est le tour de Rosa Luxembourg. On la frappe. Et puis, dans l'auto qui l'amène, dans la voiture qui la transporte, elle vit encore. Alors, on lui tire une balle dans la tête.
Zu Ehren von zwei hervorragenden Menschen, deren Name Symbol für den Kampf um den Frieden geworden ist. Zu Ehren von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wanderten wieder einmal Tausende zu ihren Gräbern nach Friedrichsfelde. Seit ihrer Ermordung durch Feinde des Sozialismus am 15. Januar 1919 im Eden Hotel in Berlin sind 29 Jahre vergangen. Karl Liebknecht schrieb einmal an seinen Sohn: Der Krieg und die vielen Mängel der Welt plagen und bekümmern dich. Jawohl, sie müssen jedes Gemüt umdüstern. Aber aus der Nacht gibt's Rettung. Nur eine Rettung freilich. Den Entschluss, die Beseitigung dieser Übel sich zum Lebensziel zu setzen.
Évocation de Rosa Luxembourg avec Jörn Schütrumpf, qui est éditeur et qui réédite toutes les œuvres de Karl Marx à Berlin. Il en est au 43e tome des œuvres de Marx et il arrivera à une centaine de bouquins. Et il édite également les œuvres de Rosa Luxembourg. C'est une œuvre considérable. Elle écrivait absolument tout le temps, on l'a vu tout à l'heure, aussi bien des ouvrages politiques très austères que des lettres plus poétiques, amoureuses ou amicales, mais toujours hantées par la même volonté d'émanciper l'espèce humaine, tout simplement. Aujourd'hui toujours, la figure de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht est liée à la RDA. Est-ce que vous trouvez que ce lien est juste, historiquement, non. Et par rapport à leurs écrits, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est fondé?
Nein, die SED-Führung hat die beiden Gräber gebraucht.
Non, pas du tout. Le SED, donc qui était le parti unique en RDA, a eu besoin de ces deux tombes.
Man wollte die Leiche und man wollte vergessen machen, was diese Frau wirklich wollte.
On voulait à la fois son cadavre, mais dans le même moment, on voulait faire oublier ce que cette femme avait pensé et écrit.
Und daran hat sich bis zum Ende in der Grundlinie nichts geändert.
Et jusqu'à la fin, donc ça c'est en 1951, et jusqu'à la fin de la RDA, rien n'a été changé à cette ligne.
C'est-à-dire qu'elle est devenue l'icône granitique de la RDA.
Ja, tout à fait.
Die Frau ist nach ihrer Ermordung von allen Seiten missbraucht, verleumdet.
Après son assassinat, cette femme a été utilisée par tout le monde et mal utilisée.
Und wird es bis heute. Die Leute, die da am 15. Januar zu den Gräbern gehen, wenn die Mehrheit wüsste, was diese Frau wirklich gewollt hätte, ihr wirklich gewollt hat, ja, die würden sich abwenden und schreiend davonlaufen.
Elle a vraiment été récupérée par tout le monde et par exemple tous ces gens qui vont sur sa tombe, ces milliers de personnes qui vont sur sa tombe chaque année, si vraiment ils savaient ce qu'elle a écrit, ils viendraient pas, ils se dépêcheraient de partir en courant de cette
Rosa
tombe.
Rosa Luxembourg war ein Kind der Aufklärung.
Rosa Luxembourg, comme je l'ai déjà dit, était un enfant des Lumières.
Sie wollte die politischen Freiheiten, die amerikanische und die französische Revolution erkämpft hatten. Also Rechtssicherheit, Recht auf Eigentum, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Assoziationsfreiheit, die wollte sie nicht beseitigen, sondern die wollte sie ergänzen.
Rosa Luxembourg était un enfant des Lumières. Elle se battait pour ce que les révolutions américaines et françaises avaient gagné et avaient défendu, la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, la liberté d'association. Elle ne voulait pas les enlever, elle ne voulait pas leur renier leurs valeurs, mais elle voulait au contraire les compléter, se battre pour elles.
Mais elle était communiste.
Sie war nicht communiste.
Non, elle n'était pas communiste.
Das ist Quatsch. Sie war Sozialist, sie war Linke.
Elle était socialiste, elle était de gauche.
Sie hat sich ab 1910 nicht mal mehr als Marxistin betrachtet.
À partir de 1910, elle se considère même plus comme marxiste. Pour elle, c'était simplement une construction intellectuelle qu'elle n'utilisait qu'entre guillemets.
Comment est-ce qu'on peut résumer sa position vis-à-vis du capitalisme lui-même? Est-ce qu'on peut dire que Rosa Luxembourg était radicalement anticapitaliste?
Sie war zutiefst antikapitalistisch. Sie war der festen Überzeugung, dass der Kapitalismus als Produktionsweise die menschliche Gesellschaft zerstört.
Elle était profondément anticapitaliste. Elle était profondément convaincue que le capitalisme conduit à la destruction de l'humanité.
Vous, vous êtes un intellectuel allemand et vous êtes passionné pour Rosa Luxembourg. Mais est-ce que les intellectuels s'intéressent à Rosa Luxembourg? Est-ce que le monde politique aujourd'hui s'intéresse à Rosa Luxembourg? Est-ce que les partis politiques qui sont sur la scène aujourd'hui s'intéressent à sa pensée et à elle?
Je connais personne qui est intéressé par Rosa Luxembourg.
Alle schmücken sich mit ihr.
Tout le monde se maquille, tout le monde se pare d'elle.
Aber
c'est un parfum, c'est un parfum.
Ich verkaufe ihre Werke und ich sehe was ich verkaufe.
Je vends ses œuvres, donc je vois ce que je vends.
Combien vous vendez par an?
Presque rien. Que de chi.
Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Lichte empor. Hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die Zukunft hervor. Hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die Zukunft hervor. Seht, wie der Zug von Millionen endlos aus mächtigem quillt, bis eure Sehnsucht verlangen Himmel und Nacht überschwillt. Bis eure Sehnsucht verlangen Himmel und Nacht überschwillt. Brüder in eins nun die Hände, Brüder das Sterben verlacht, ewig der Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Schlacht, ewig der Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Schlacht.
Là, on est au Sibylle Café. Et le Sibylle Café, c'est un café historique parce qu'on est au début de la Karl Marx Allée, mais qui, jusque dans les années 60, s'appelait Staline Allée. Et c'est toute la puissance mégalomaniaque, enfin, c'est entièrement l'architecture stalinienne, l'urbanisme stalinien soviétique. Aujourd'hui, c'est le temps idéal parce qu'il pleut, il fait froid, et ça va très très bien avec le décor. Et on a avec nous Monsieur Klaus Gronau.
Klaus Gronau.
Yeah. Et Klaus Gronau, il est très précieux parce que il a assisté, il a été témoin d'un événement qui est assez peu connu. C'est 1953. 1953, c'est la mort du grand fureur et de notre maître à tous, Joseph Staline, ce qui entraîne un léger allègement. Or, ici, à Berlin, on est en train de construire donc cette Staline Allée, et les ouvriers vont se révolter. Vont se révolter parce que leur gouvernement leur demande des cadences plus importantes, et donc Klaus Gronau est un des témoins de ça. Il avait à l'époque 16 ans. C'est ça, vous aviez 16 ans à l'époque.
Und nun war ja sowieso die Richtung immer fokussiert aus meiner gesamten Erinnerung meiner Jugend, weil ich da ständig zugebracht habe, fast täglich, den Holzplatz, so nannten wir ihn. Ne? Und da war jetzt in der dritten Etage, bis zur dritten Stock, die Bauten schon hochgezogen.
J'avais une relation particulière à tout ce quartier parce que c'était le quartier où j'avais passé mon enfance, où j'avais grandi.
Und jetzt kam ich und sehe da 30 bis 40 Bauarbeiter meutern.
Donc je passe là et tout à coup je vois 30 ou 40 ouvriers qui sont en train de commencer à faire une émeute.
Ich blieb stehen und guck, oh, was ist denn da los? Es war ungewöhnlich.
Donc je me suis arrêtée, j'ai regardé, je me suis demandé ce qu'ils faisaient, c'était bizarre.
Und jetzt ging ich mit hin und da sah ich einen jungen, kräftigen Bauarbeiter mit einem Vorschlaghammer, der haute zwei der Autos kaputt, Scheiben und Kotflügel und...
Donc, j'ai vu un ouvrier qui avec un marteau a commencé à détruire des voitures qui étaient stationnées.
Und das war für mich also so ein großer Schreck als solches, denn sowas kannten wir nicht.
Pour moi, ça a été un grand choc parce que je ne connaissais pas ce genre de brutalité.
Wir hatten ja kaum Autos auf der Straße.
Il y avait très peu de voitures à l'époque. On ne voyait pratiquement pas de voitures dans la rue.
Ein Auto war schon fast wie ein Heiligtum.
Une voiture, c'était quelque chose de sacré.
Und die liefen nur los und ich schloss mich mit an, mit meiner Schulmappe und so weiter und ging mit.
Ils ont commencé à marcher et moi, je les ai rejoints.
Voilà. Klaus Gronau qui évoque pour nous ces journées de 1953, de juin 1953, qui sont bien connues en Allemagne et évidemment aussi à Berlin. On les a commémorées en 2003, mais beaucoup moins connues ici, de ce côté-ci, de l'Europe. Il faut comprendre ce qui s'est passé là, cette insurrection ouvrière en Allemagne de l'Est, ces journées-là, parce que c'est à la suite de la répression de ces émeutes que beaucoup d'Allemands de l'Est ont quitté vers pour aller à l'Ouest, massivement, par dizaines de milliers, en disant on peut pas voter à l'Est, mais ils sont en train de voter avec leurs pieds puisqu'ils partent, et c'est à la suite de cet exode que la RDA a décidé en 1961 la construction de ce mur. Donc il y a un lien entre les événements que l'on évoque là et la construction du mur en 1961. Klaus Gronau.
Und inzwischen waren nur so viele Menschen schon gekommen, mehr als 1000.
Entre-temps, plusieurs milliers de personnes sont arrivées.
Jetzt an der Brücke hier, Frank-Stalin-Allee angekommen, am Verbinder, war jetzt so breit wie die ganze Straße. Stalin-Allee war alles schwarz.
Et ici, tout était noir de monde.
C'est-à-dire là, sous nos yeux, là où nous sommes, puisqu'on est devant Stalin-Allee, enfin, c'est ce qui s'appelle Karl Marx-Allee maintenant, dans cette avenue très large, c'était noir de monde. La foule remplissait cette avenue.
Schwarz. Tausende.
Tausende
von Menschen. Ja. Und an der Oberbaumbrücke rannten die Volkspolizisten weg, die dort in den Wärterhäuschen standen, Wächterhäuschen, Grenzstationen.
Et là, les policiers ont commencé à fuir et ils ont quitté leur guérite et sont partis.
Ja, in einer Kirche kamen wir vorbei und da wurde dann auch noch gewunken, nicht so wie die Leute aus den Fenstern vielfach Zustimmung signalisierten.
Et il y avait aussi une église sur notre passage et les gens nous faisaient grands signes par les fenêtres et nous montraient leur accord.
Wir gingen bis zum Lustgarten.
Nous sommes allés jusqu'au Lustgarten.
Lustgarten war große Podien gemacht, aufgebaut auf die Schnelle.
Ils avaient construit des podiums.
Und dort wurden jetzt dann, na sagen wir mal, palavert. Also es wurden Forderungen.
On discutait, on voulait demander des choses.
Ja. Und nun hörten wir aber durch Rundfunk, dass an der Oberbaumbrücke geschossen worden ist.
Et on a entendu à la radio qu'il y avait des coups qui avaient été tirés à la Oberbaumbrücke, donc au pont Oberbaum.
Und von da aus, da war geschossen, trugen sie eine Frau, die war am Oberschenkel, blutete, nicht? Und in der Zwischenzeit kam noch in Schutzhaft genommen.
On a vu des gens blessés, il y avait une femme qui avait une blessure à la jambe.
Und daraufhin bin ich zurückgegangen in den Ostteil der Stadt.
Et donc moi je suis retournée sur le côté est de la ville.
Dort waren jetzt in der Zwischenzeit schon die Russenpanzer angekommen.
Les chars russes étaient déjà arrivés.
Il y avait des chars russes, des chars.
Ja, ja.
Est-ce que les manifestants étaient armés?
Nein.
Nein.
Pas du tout.
Nein. Nur Steine.
Seulement des pierres.
Nur Steine.
En Europe, un événement d'une portée extraordinaire a troublé le silence des peuples. Dans la zone soviétique de Berlin, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers exaspérés par les décisions du gouvernement communiste d'augmenter sans contrepartie les normes de travail se sont soudain soulevés. La police populaire a dû protéger les meneurs communistes que malmenait la foule. Des immeubles de l'administration soviétique ont été incendiés. Le drapeau rouge qui flottait sur la porte de Brandebourg était arraché et remplacé par les couleurs allemandes. déclenchait alors l'intervention des forces russes. Et les chars, à la suite des voitures de police, ouvraient le feu. Les informations soviétiques parlent de 18 morts et de 200 blessés. Ces manifestations de Berlin-Est ont eu des échos dans toute la zone soviétique où d'autres manifestations du même genre se sont déroulées. Une Allemagne orientale imprévue se découvre.
Und kam vorbei und da sah ich den Bauarbeiter von frühmorgens 7 Uhr auf dem Boden liegen und vom Panzer totgefahren.
J'ai vu cet ouvrier que j'avais vu le matin, il était par terre, il avait été écrasé par un char.
Und seine Blechbüchse, die Stullenbüchse war platt wie eine Briefmarke.
Et la gamelle dans laquelle il avait son repas était tout aplatie sur le sol.
Darauf bin ich in Panik nach Hause gerannt.
Là, j'ai vraiment couru, j'étais complètement paniqué.
Und zu Hause angekommen, war mein Vater auch, war auch nicht arbeiten, und wir warteten jetzt in der Wohnung ab.
Et donc je suis rentrée à la maison. Mon père était aussi à la maison, il n'était pas allé travailler et nous avons attendu.
Wir hatten dann noch Rundfunk, also RIAS.
On écoutait la radio.
Ja, und da hatte mein Vater dann aufgehört, Radio zu hören, aus Vorsicht.
Mon père a arrêté d'écouter la radio parce que il avait trop peur.
Ja, und auf der Straße gingen dann nachher Russensoldaten, nicht, und die schossen dann immer in der Luft.
Les chars passaient dans les rues et continuaient de tirer dans l'air.
Und wir haben hinter der Gardine oder so dann geschmult, also mehr mein Vater als ich und so. Nicht fast sehr viel Abläufe und haben abgewartet, das war eine aufregend.
On était cachés derrière les rideaux, on regardait un petit peu ce qui se passait.
Aufregend und unruhige Nacht.
C'était une nuit très agitée.
Acht schicksalhafte Tage für Berlin, vielleicht für Deutschland. Der Aufstand, ein Protest gegen die Herrschaft des SED-Regimes und ein Bekenntnis zur Wiedervereinigung.
Tentative de putsch soutenue par des agents occidentaux, selon les autorités est-allemandes, et bien évidemment, et alors que les manifestants dans les rues de Berlin et d'ailleurs de Leipzig criaient « Nous sommes les vrais communistes ». Cette manifestation, 1953, a fait plusieurs dizaines, centaines de morts selon les versions. Et selon les versions, ça a été une des manifestations et des émeutes spontanées qui visaient à remettre en cause la gestion du pays. Pour d'autres, il s'agissait d'une aspiration à la liberté et à passer à l'Ouest. La guerre froide n'est pas tout à fait terminée et reste une guerre froide des mémoires.
On kam vorbei und da sah ich den Bauarbeiter von frühmorgens 7 Uhr auf dem Boden liegen und vom Panzer totgefahren.
J'ai vu cet ouvrier que j'avais vu le matin, il était par terre, il avait été écrasé par un char.
Und seine Blechbüchse, die Stullenbüchse, war platt wie eine Briefmarke.
Et la gamelle dans laquelle il avait son repas était tout aplatie sur le sol.
Darauf bin ich in Panik nach Hause gerannt.
Là, j'ai vraiment couru, j'étais complètement paniqué.
Und zu Hause angekommen, war mein Vater auch, war auch nicht arbeiten, nicht, und wir warteten jetzt in der Wohnung ab.
Et donc je suis rentrée à la maison. Mon père était aussi à la maison, il n'était pas allé travailler et nous avons attendu.
Wir hatten dann noch Rundfunk, also RIAS.
On a écouté la radio.
Ja, und da hatte mein Vater dann aufgehört, Radio zu hören, aus Vorsicht.
Mon père a arrêté d'écouter la radio parce qu'il avait trop peur.
Ja, und auf der Straße gingen dann nachher Russensoldaten, nicht, und die schossen dann immer in der Luft.
Les chars passaient dans les rues et continuaient de tirer dans l'air.
Und wir haben hinter der Gardine oder so dann geschmult, also mehr mein Vater als ich und so. Nicht fast sehr viel Abläufe und haben abgewartet, das war eine aufregend.
On était cachés derrière les rideaux, on regardait un petit peu ce qui se passait.
Aufregend und unruhige Nacht.
C'était une nuit très agitée.
Alors évidemment, la question qu'on a envie de poser à Klaus Grünau, c'est la chute du mur, ce moment fatidique.
Wissen Sie, ich habe geweint. Ich habe wirklich geweint an dem Punkt, als das damals war. Es ist wirklich Tatsache so. Die Freude war so groß, dass man sich heute nur noch nicht versteht,
will ich nicht begreifen, ja. Mhm. Aber damals, das war eine schöne Sache.
Mhm. Je dois dire, j'ai vraiment pleuré. Que les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai du mal à le saisir. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Excuse me. Ja, naja, und dort haben wir die...
Merci à tous, merci à Klaus Brunau. Uwe Soukoup, Jürgen Schutrumpf, Isabelle Penaud, Marina Touillet, Catherine Pinto, Guy Van Til. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org. Là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. Réalisation Koy Nguyen, Raphaël Mouter, d'assister d'Agnès Lobot pour cette bescheidene und geniale Sendung. Et Catherine Pinto, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 01 56 40 37 37.
Aujourd'hui, EDF Pro vous conduit chez Benoît, restaurateur.
Avec mon chef de cuisine, nous privilégions les produits de saison. C'est plus savoureux et moins onéreux. La réduction des coûts, c'est important. Et parce que c'est valable aussi pour notre consommation d'énergie, j'ai appelé EDF Pro. Et bien, grâce à leurs conseils, on a réduit nos dépenses. Qui, par ailleurs, ont tendance à augmenter.
Pour bénéficier de solutions simples et économes en matière d'énergie, ayez le réflexe EDF Pro en appelant le 0810 333 776, prix d'un appel local depuis un fixe ou rendez-vous sur edfpro.fr. EDF, changez l'énergie ensemble.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Aujourd'hui est pourtant juste un jour comme les autres. Vous faites juste votre première livraison de la journée. Vous entendez juste votre téléphone sonner. Vous prenez juste un appel au volant. Vous avez juste écrasé un cycliste. Sur la route, il n'y a pas de petite infraction. Respectons les règles. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du ministère du Développement Durable.
Vendredi, Euromillions met en jeu la somme colossale de près de 100 millions d'euros. 100 millions! Oula, c'est du lourd. Du très 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 lourd.
Estimation non garantie des gains à partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions. Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
Française des Jeux.
Demain, dans la basse, si j'y suis, vous serez tous sur le rabais écologique à Berlin. On se retrouve donc demain à 15h pour la basse, si j'y suis, les 16h et une minute sur Inter, les infos, Solène Lehen. Salut.
En football, Raymond Domenech, le sélectionneur français, doit annoncer dans les prochaines minutes le groupe qui affrontera l'Irlande les 14 et 18 novembre prochains. Deux matchs de la dernière chance pour espérer participer à la Coupe du Monde en Afrique du Sud l'an prochain. Voile, Franck Camas a quitté Brest cet après-midi sous les applaudissements des spectateurs. À bord de Groupama 3, son maxi trimaran, le navigateur va tenter de battre le record du trophée Jules Verne. Il espère réaliser le tour du monde en équipage en moins de 50 jours. En Formule 1, Renault annoncera avant la fin de l'année si l'écurie participera au championnat du monde l'an prochain, dixit Carlos Ghosn, le patron du constructeur. À La Haye, le tribunal pénal international impose cet après-midi un avocat à Radovan Karadzic et reporte son procès au 1er mars 2010. L'ancien chef des Serbes de Bosnie avait refusé de s'y présenter, estimant qu'il n'avait pas eu assez de temps pour assurer seul sa défense. Au Proche-Orient, Mahmoud Abbas renonce à briguer un nouveau mandat à la présidence de l'autorité palestinienne. L'élection doit avoir lieu en janvier. Mahmoud Abbas, découragé par l'impasse actuelle du processus de paix avec les Israéliens, devrait en dire davantage sur ses motivations dans les prochaines heures. 900 expatriés de l'ONU jugés non essentiels vont quitter l'Afghanistan par mesure de sécurité. Décision temporaire de l'Organisation des Nations Unies après l'attaque sanglante des talibans la semaine dernière contre l'une de ses structures à Kaboul. Les familles des victimes du vol Rio-Paris se disent déçues de leur rencontre ce matin avec Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au transport. Elles dénoncent un manque de transparence dans l'enquête sur le crash survenu il y a 5 mois et qui a fait 228 morts. Les recherches en mer sont constamment retardées, déplorent les familles, et on ne sait toujours pas pourquoi l'appareil s'est abîmé en mer. La moitié des bonus des traders et des dirigeants de banques sera désormais versée en différé sur 3 ans et leur montant dépendra des performances de leurs banques. Ce sont les mesures annoncées cet après-midi par la ministre de l'économie Christine Lagarde. Les banques s'y sont engagées. Et si le lancer de chaussures devenait la nouvelle façon de protester en politique? À l'université de Cambridge, aujourd'hui, un homme furibond a lancé sa chaussure en plein débat, destinataire John Howard, l'ancien premier ministre australien, taxé de raciste par le contestataire. Cambridge, où les étudiants sont réputés pour leur capacité sportive à l'aviron et au rugby, mais ils sont aussi habiles. Un jeune homme a empêché l'impact, il est parvenu à saisir la chaussure en plein vol.
On aura tout vu sur France Inter, invité une grande comédienne, une nouvelle actrice dans un sacré film.
Emmanuel DeVos et Soko, toutes les deux à l'affiche de À l'origine de Xavier Giannoli.
La banque a fait toute la journée.
Je m'en fous de ce banquier, c'est rien, c'est personne.
Mais qui va payer pour tout ça? Là, il a refait tous nos derniers chèques, on me tombe dessus de tous les côtés, on me fait engueuler toute la journée par tous les fournisseurs.
Christine Masson.
Je
Laurent Delmas.
Je suis de votre côté, moi, je vais vous aider.
Demain à 17h.
France Inter et le Théâtre de l'Atelier présentent actuellement Premier Amour de Samuel Beckett, interprété et mis en scène par Samy Frey.
Ça n'était heureusement pas la première fois que je voyais une femme nue. Je pus donc rester. Je savais qu'elle n'exploserait pas.
Premier Amour au Théâtre de l'Atelier, à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter, la différence.
16h04 sur France Inter. Bonjour Frédéric Lodéon.
Et bonjour Solène. Carrefour de l'Odéon. Et merci d'être avec nous. Quelques nouveautés pour commencer. Un album d'enfants qui vient de paraître. Et c'est une pianiste d'origine russe, française désormais, Elena Filonova, qui nous propose des pièces pour nos chères têtes blondes ou brunes, ou rousses. Tchaïkovski, Kabalevski, Miaskovski, Shostakovich. Vous avez compris que c'est de la musique russe. Liapounov, Gretchaninov, Prokofiev, Maïkapar, Chedrin, Kachatourian, Zviridov. Kachatourian est arménien, bien sûr, mais il faisait partie de l'Union soviétique. Grand compositeur et coloriste absolument extraordinaire. Et puis Slonimsky, il y a des auteurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais entendu ici. Ben voici, c'est un joli cadeau de Noël, on est un peu loin, mais enfin ça peut servir, de cet album d'enfant de Tchaïkovski, un à la manière de Schumann, et je vous propose une valse. Tiré de l'album d'enfants à la manière de Schumann de Piotr Ilitch Tchaïkovski, interprété par Elena Filonova. Par la même artiste, voici de Dmitri Kabalevski, et tiré de ses 30 pièces pour enfants, une très 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 courte sonatine. Thank you. sonatine tirée des 30 pièces pour enfants de Dmitri Kabalevski, toujours par Elena Filonova, dans cet album joliment colorié, en plus, il y a un joli livret, publié chez Calliope. Il y a aussi, bien sûr, Prokofiev, avec des musiques d'enfants, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a une marche des sauterelles.